فنحن في الليلة التاسعة عشر من شهر ربيع الثاني عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستأنف فيها دروس شرح رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Dans cette soirée du 15 décembre 2019, nous reprenons l'étude du livre « Les mérites de l'Islam » par l'auteur Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous étions arrêtés après le chapitre portant sur l'obligation d'entrer en Islam en acceptant tout ce que l'Islam implique et sans rien rejeter des parties de l'Islam. Et à travers ce chapitre traité, nous avions pu voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de tout accepter de l'Islam et de ne pas choisir de celui-ci que ce qui convient à nos passions en délaissant ce qui ne convient pas à nos passions. Après cela, l'auteur rahimahullah va maintenant traiter à travers quelques chapitres suivants sur l'importance ou la gravité plutôt de l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. Chapitre suivant concernant les textes relatés et montrant que l'innovation est pire que les péchés majeurs. Subhanallah. L'innovation dans l'islam est pire que ce que l'on appelle al-kaba'ir, le pluriel de al-kabira, qui est le péché majeur. On l'appelle souvent le grand péché, mais l'on va voir ici la réalité de l'innovation et la réalité des péchés qui sont majeurs. Ce sont donc des actions gravissimes chez Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant l'innovation est pire chez lui subhanahu wa ta'ala. Mais avant l'innovation, le terme bid'a, dans le sens linguistique, signifie quelque chose inventé sans exemple précédent. Quelque chose qui a été inventé sans exemple précédent. En d'autres termes, en un seul mot, une nouveauté. Quelque chose de nouveau. C'est ce que l'on entend par le terme bid'a quand il est employé dans son sens linguistique. On retrouve le sens de ce mot notamment dans plusieurs versets du Coran. Il est employé au sens linguistique. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, se décrivant, nous dit de lui-même Badi'u as-samawati wal-ard, celui qui a initié la création des cieux et de la terre. Ici, il s'agit de les avoir créés sans exemple précédent, sans modèle, sans rien qui ne ressemble à ces deux créatures que sont le ciel ou alors les cieux et la terre. On voit badi'u, et cela vient de la même source du mot bid'a. Voilà le sens linguistique du terme bid'a. Quant au sens religieux, al-shar', quant au sens religieux, plusieurs définitions ont été données, notamment le cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit فهي إحداث شيء في الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. L'invention d'une chose en religion n'ayant aucun fondement dans le livre ni dans la sunna. L'invention d'une chose dans la religion n'ayant aucun fondement dans le livre ni dans la sunna. Il est important de préciser les mots ici. Il dit l'invention d'une chose dans la religion. Car l'invention d'une chose dans le domaine mondain ne concerne pas ce chapitre, à savoir la gravité de l'innovation, l'interdiction de l'innovation, le danger de l'innovation. Quand on parle d'innovation en religion, on parle de ce qui a été inventé dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sans preuve, sans source dans le Coran et dans la Sunna. Il n'est donc pas cohérent, il n'est pas exact de justifier les innovations religieuses par les innovations mondaines. À titre d'exemple, Jama'atut Tablir, le groupe prétendant appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ou se présentant comme tel en tout cas. Ces gens-là disent, ce que nous faisons n'est pas une innovation. Le fait de sortir pour appeler Allah 4 mois, 40 jours, aller à tel et tel endroit n'est pas une innovation. De la même manière que les micros qui sont utilisés lorsque l'imam récite quand il dirige la prière n'est pas une innovation. De la même manière encore que les universités islamiques où l'islam est étudié ne représentent pas des innovations. Eh bien, en réalité, ils ont argumenté par des choses qui n'ont rien à voir. Parce que oui, le micro n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est une innovation mondaine et pas religieuse. C'est-à-dire que celui qui invente le micro, celui qui utilise le micro, il ne se croit pas dans une adoration parce qu'il a un micro dans la main, vous comprenez? Alors que celui qui prêche et qui détermine un nombre, un endroit, si on lui demande, est-ce que tu te rapproches d'Allah en faisant ça, il va te dire, bien sûr que oui, n'est-ce pas? D'autre part, l'innovation, c'est aussi ce qui existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui pourtant n'a pas été fait. Par exemple, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était-il possible de dire nous sortons 4 mois, nous sortons 40 jours? Répondez.
Oui.
Bien sûr que c'était possible, mais ils ne l'ont pas fait. Alors que le micro, lui, dont vous parlez, ou autre, les tapis et autres exemples qui sont donnés, n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment pouvez-vous donc dire que ce sont des innovations religieuses? Mondaine, oui. Religieuse, non. Donc c'est pour ça que les savants ont bien précisé dans la définition de l'innovation qu'il s'agit de l'invention d'une chose en religion et non pas une chose mondaine. Deuxièmement, qui n'a aucune source dans le Coran, dans la Sunna. Donc cela te montre que les adorations par lesquelles tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala sont des choses qui doivent trouver leur source dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est pas le cas, alors cela ne sera pas accepté. Et cela sera appelé une bid'a, une innovation. Parce que c'est quelque chose qui a été instauré en religion sans preuve, sans base, sans fondement. Comme le fait d'innover en matière d'adoration, car l'adoration entre dans ce que l'on appelle le tawqif, c'est-à-dire que l'adoration, pour être faite, dépend des textes. Toute action que tu veux faire, toute parole que tu veux prononcer, toute conviction que tu veux adopter, tu dois avant cela être sûr avec une preuve du Coran ou de la Sunna que tu peux faire cette chose, dire cette chose, croire à cette chose. Donc, quand on parle de religion, agir en religion, parler en religion, être convaincu d'une chose ou d'une autre en religion, s'arrête à la preuve. Tant qu'il n'y a pas de preuve, je n'ai pas le droit de m'avancer. Ça, c'est le domaine de la religion. Il n'est donc pas permis de dire on va essayer et si cela fonctionne alors on va l'adopter et on va faire cette action. Il n'est donc pas permis non plus de dire en matière de religion, lorsqu'il est dit à l'un d'entre les gens qui font erreur en matière de religion qu'il ne devrait pas faire cette erreur, il répondrait viens essayer, tu y trouveras la foi ou tu verras que cela fonctionne. Ce n'est pas ainsi que dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala l'on doit œuvrer ou délaisser. Mais on doit s'arrêter, avoir une preuve et ensuite agir. On n'agit pas pour aller ensuite chercher une preuve que l'on va inventer de nous-mêmes, qui n'est pas dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il en est ainsi car Allah tabaraka wa ta'ala a complété et parachevé sa religion. Il en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans surat al-Ma'idah, dans un verset qu'il révéla alors que le prophète alayhi salatu wa sallam accomplissait son pèlerinage appelé Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Cela fut un jour de vendredi, le jour de Arafat, le meilleur jour de la semaine, le meilleur jour de l'année et au meilleur endroit où on pouvait se trouver. Allah a choisi pour ces jours-là, ce moment-là, la révélation de ce verset, après lequel le prophète alayhi salatu wassalam ne va vivre que 81 nuits, à peu près 2 mois et demi seulement, pour dire « Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. » Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. L'islam, cet islam qui a été parachevé ce jour-là par ce verset-là, c'est celui-là que j'agrée. Et je n'agrée nul autre que celui-là. Si quelqu'un vient innover après la révélation de ce verset, alors il ne l'accepte pas, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a quitté ce bas monde qu'après avoir accompli sa mission et transmis le message entièrement. C'est pour cela qu'il mettait en garde les compagnons contre l'innovation en matière de religion en disant « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd » Quiconque innove dans notre ordre, ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Il dit aussi alayhi salatu wassalam « Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd » Quiconque fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, il se verra rejeté. Les hadiths sont très nombreux en mettant en garde contre l'innovation avant même que celle-ci n'existe. Que dire alors dans un monde où l'innovation non seulement existe, mais plus encore, elle est largement propagée et elle est devenue très diverse et variée. Si on mettait en garde contre l'innovation avant sa naissance, que devons-nous faire aujourd'hui? Et ça, c'est la réponse à ceux qui disent « Pourquoi êtes-vous tout le temps là à répéter innovation, innovation? Il y a d'autres sujets plus importants. » Non, vous vous trompez. Certes, il y a des sujets qui sont très importants et qui ne doivent pas être négligés. On doit être dans le juste milieu. Tous les sujets importants doivent être traités. Cependant, il faut savoir que la cause ou qu'une des grandes causes de tous les maux qui touchent notre communauté dans ces sujets sur lesquels vous vous concentrez et desquels vous voulez parler, c'est bien le délaissement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'innovation dans la religion. Le retour à la sunna est donc une solution à tous les problèmes. Et Allah est celui qui accorde son aide, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la personne qui veut se rapprocher d'Allah par une action, une parole ou une conviction, sans preuve du Coran ou de la Sunna, alors tout cela sera rejeté. Le prophète alayhi salat wa sallam n'a cessé de dire « Inna khayr al-hadithi kitabullah » La meilleure des paroles est le livre d'Allah. « Wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam » La meilleure guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. « Wa sharr al-umuri muhdathatuha » Et les pires des choses sont celles qui sont inventées. Ainsi, l'on voit que l'innovation fait partie des pires des choses. C'est une chose qui est mauvaise. Il dit aussi « Wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar » Et toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Il n'y a donc pas d'exception. Et il n'y a pas, comme certains le disent, de bonnes innovations dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car s'il y avait de bonnes innovations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Toute innovation est un égarement sauf telle et telle. » Comme on le retrouve dans plusieurs récits, plusieurs hadiths authentiques, où il va dire « Toute chose sauf telle et telle. » Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais s'il ne le fait pas ici, c'est bien parce que dans la religion, il n'y a pas d'exception. Quand on parle d'innovation, elles sont toutes des égarements. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a laissé aucun bien sans l'enseigner à sa communauté, aucun mal sans mettre en garde sa communauté contre ce dernier. Et parmi les grands maux contre lesquels il n'a cessé de mettre en garde, il y a bien l'innovation en matière de religion. Il nous a montré sa gravité et donné sa solution en nous disant « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa addu alayha bin nawajid. Cramponnez-vous à ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y et mordez-y avec vos molaires. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Et prenez garde aux choses nouvelles. Puis il dit فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Car certes, toute chose nouvelle est une innovation. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et toute innovation est un égarement. Et les savants disent qu'il n'y a pas une innovation qui est faite sans que son équivalent dans la sunna ne soit effacé. C'est-à-dire que lorsque la personne, lorsque les gens vont innover en religion, ce qui devait se faire à la base dans cette chose que la personne a voulu faire, ce qui devait se faire, la sunna, la façon de faire cette chose, eh bien, va disparaître. Et les gens vont choisir une autre façon. Donc chaque fois que les gens vont instaurer une innovation, ils vont éliminer une sunna, wal'iyadu billah. Et quand nous disons éliminer, c'est-à-dire que ils vont l'éliminer chez les gens. Et la sunna ne sera jamais éliminée. Elle sera toujours là. Seulement, ils vont induire des gens en erreur à tel point que ils vont délaisser une sunna qui est authentique. Il n'y a aucun bien dans l'innovation. Et les savants n'ont cessé de mettre en garde contre ces dernières. Le Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, a cité quelques exemples d'ouvrages traitant de l'innovation, en nous disant qu'il y a des ouvrages qui sont volumineux, d'autres qui sont résumés. Parmi les ouvrages célèbres, il y a le livre de l'imam Al-Shatibi, intitulé Al-I'tisam. Il y a aussi le livre de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, ce qu'implique le suivi du droit chemin. Ce n'est qu'une partie du titre du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, mais c'est avec cette partie que les gens le connaissent. Il dit aussi le livre Al-Bida' wa Nahyu Anha, les innovations et l'interdiction de les commettre, par Muhammad ibn Waddah. Et il cite aussi d'autres ouvrages, en disant également qu'il y a dans l'explication des hadiths, dans l'explication des livres de hadith, des mises en garde contre l'innovation, la description de l'innovation et tout ce qui est en rapport avec ce domaine. Ainsi, les gens de l'innovation sont des gens de l'égarement. Ils combattent la sunna, ils combattent la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, ولذلك تجد المبتدعة يبغضون السنن ويحبون البدع. Tu vois que les gens de l'innovation détestent la sunna et suivent et aiment les innovations. وينشطون في إحياء البدع. Et ils s'investissent, ils sont très actifs et dynamiques pour faire revivre les innovations. وإذا جاءت السنة تكاسلوا وثقلت عليهم السنن. Et quand il y a des sunnas à appliquer, ils se montrent paresseux et l'application de la sunna est pour eux très lourde. Et c'est connu des innovateurs qui ne font des efforts que dans les innovations. Et en réalité, c'est une punition d'Allah. C'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, car, nous dit le Cheikh Fawzan, quiconque abandonne la vérité sera éprouvé par le faux. Ça, c'est une règle. Celui qui abandonne la vérité, qui déteste la vérité, qui fuit la vérité, qui se détourne de la vérité, sera éprouvé par le faux. Il aimera le faux, il suivra le faux, il appellera au faux, il s'attachera au faux. Il ne faut donc pas négliger la question de l'innovation qui est dangereuse pour le musulman, pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand la personne innove, plus elle innove, plus elle détruit la religion. Plus elle détruit la religion, plus le but de Shaytan est de la conduire au shirk. Car le diable a plusieurs ruses. S'il n'arrive pas directement à faire tomber la personne dans le shirk, alors il la fait tomber dans l'innovation. Une fois qu'il arrive à la faire tomber dans l'innovation, il fait en sorte que cette personne s'élargisse dans cette innovation jusqu'à finir par tomber dans le pire des péchés qui est ash-shirk billah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, qui font des innovations en sachant qu'elles sont des innovations. Et ils le font parce que, par leurs innovations, ils gagnent des biens mondains. C'est la convoitise de la dunya qui les pousse à innover. Et ça, on peut le comparer facilement à notre époque. Ou alors, on peut l'imaginer facilement à notre époque. Tous ces gens qui se font passer pour des beaux parleurs et qui n'hésitent pas à rendre licite telle et telle chose parmi les interdits, ou alors à interdire telle et telle chose parmi les choses prescrites par Allah, subhanahu wa ta'ala, afin qu'au final, un poste leur soit donné, un poste inventé, représentant de l'islam dans telle région, recteur de telle mosquée. Quand tu entends ces noms, tu penses qu'il s'agit d'un ministre. Au final, il ne s'agit que d'un ignorant qui peut-être ne sait même pas placer deux phrases correctement. Wal'iyadu billah. Puis ce sont ces gens-là qui sont désignés comme des guides. Et ce sont eux qui vont se prononcer dans la religion d'Allah. Pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi? Ad-dunya. Parce qu'ils aiment la dunya. Et parce qu'au retour, on va les endormir avec ce papier, avec l'argent. Ils n'hésitent pas à vendre leur croyance, à vendre leur religion pour des biens mondains. Wal'iyadu billah. Ils mangent par la bid'a. Ils veulent devenir autoritaires en accédant à des hauts postes par la bid'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Dans le sens rapproché du verset, si seulement ils avaient été satisfaits de ce qu'Allah et son messager leur donnent, et si seulement ils avaient dit Allah nous suffit, il nous accordera de sa grâce et son messager, certes nous sommes désireux de ce qu'il y a auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah les aurait honorés, il les aurait élevés, subhanahu wa ta'ala. Donc pour cela, l'auteur nous montre dans ce chapitre que l'innovation est pire que les péchés majeurs. Pourquoi est-ce qu'elle est pire? Parce que celui qui innove pense qu'il se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui commet un péché majeur, il consomme de l'alcool, il le fait en cachette. Il sait que ce n'est pas bien. Il n'aimerait pas être vu. Il espère pour certains se repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui innove, il croit qu'il adore Allah. Et en faisant ça, il a menti sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Car il a attribué à la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Et de ce point de vue-là, l'innovation, c'est pire que la religion. Et ça revient aussi, l'innovation, pardon, c'est pire que les péchés majeurs. Et ça revient aussi à dire que la religion est incomplète. Car quand on innove dans la religion, quand on fait quelque chose de nouveau, quand on voit quelqu'un innover, à qui on dit, est-ce que le prophète agissait ainsi, sallallahu alayhi wa sallam, il te répond non. Donc si le prophète n'agissait pas ainsi, est-ce que tu penses que c'est un bien? Il te répond oui. Donc ils croient que la religion est incomplète et que le prophète alayhi salatu wa salam ne nous a pas enseigné tout le bien. Mais il y a une partie du bien qui a été cachée que toi tu as réussi à trouver. Subhanallah. Qui est-ce qui pourrait accepter un tel raisonnement malsain? Les péchés majeurs, ce que l'on appelle en arabe al-kaba'ir, les péchés majeurs, ce sont des péchés, des choses qui sont interdites par Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont rattachées à une menace. Car les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala, que l'on retrouve dans les textes du Coran ou de la Sunna, sont parfois mentionnés avec une menace et parfois mentionnés avec une simple interdiction. Lorsque l'on voit un interdit suivi d'une menace, quiconque fait telle et telle chose ne sentira pas l'odeur du paradis. Quiconque fait telle et telle chose sera maudit par Allah. Quiconque fait telle et telle chose, Allah ne lui adressera pas la parole. Quiconque fait telle et telle chose, etc. Chaque fois que vous voyez une menace derrière un interdit, vous comprenez que cet interdit est un péché majeur. Et lorsque le péché est cité, il n'est pas rattaché à aucune menace, c'est un péché mineur. Quand on dit un péché majeur ou un péché mineur, cela ne veut pas dire que le péché mineur est moindre et n'a pas d'importance chez Allah. Un salaf a dit, ne regarde pas la petitesse du péché que tu commets, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Subhanahu wa ta'ala. Seulement quand les savants disent kaba'ir, sara'ir, péché majeur et mineur, ils le disent pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le péché majeur est plus grave que le péché mineur. Le péché majeur nécessite un repentir pour être pardonné, dans la plupart des cas. Alors que le péché mineur ne nécessite pas forcément un repentir. C'est-à-dire qu'il existe d'autres actions qui sont expiatrices des péchés mineurs. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « As-salawatul khams » les cinq prières. « Wal-jumu'a ila jumu'a » du vendredi à un autre vendredi. « Ramadan ila ramadan » le mois de Ramadan jusqu'au mois de Ramadan, « Mukaffiratun lima baynahunna » sont des actions expiatrices des péchés commis entre ces deux périodes différentes, entre les cinq prières, entre les deux vendredis, entre les deux Ramadan. « Idha jtunibatil kaba'ir » quand les péchés majeurs sont délaissés. Donc tant que les péchés majeurs sont délaissés, les péchés mineurs sont effacés par ces bonnes actions et d'autres encore qui sont cités dans les hadiths. Et dans ce hadith-là, qu'est-ce que l'on apprend, notamment, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a divisé les péchés en majeurs et mineurs. Car il dit, « Idha jtunibatil kaba'ir » lorsque les péchés majeurs sont délaissés. S'il dit qu'il existe des péchés majeurs, c'est bien pour les distinguer des autres péchés qui ne le sont pas. Ces autres péchés qui ne le sont pas sont donc les péchés mineurs. C'est donc le prophète, alayhi salatu wa salam, qui a montré ces catégories de péchés. Les péchés majeurs, comme nous l'avons dit, ce sont les péchés interdits et qui font découler une menace pesant sur la personne commettant ce péché, si elle ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants disent, ce sont toutes les actions de désobéissance engendrant une peine. Car vous savez que dans l'islam, il existe des peines qui sont prescrites pour des péchés qui sont commis. Certains ajoutent donc cela, ils disent, chaque fois qu'il y a une peine rattachée, une sentence rattachée à un péché, alors il s'agira d'un péché majeur. Qu'Allah nous en préserve. Le pire des péchés majeurs, vous le savez, c'est ash-shirk. C'est le polythéisme. Quand l'auteur, rahimahullah, ici, nous dit l'innovation est pire que les péchés majeurs, il fait une différence entre le péché majeur, comme on le retrouve dans le texte, les péchés majeurs, comme on les retrouve dans le texte, c'est ce que je vous ai dit, mais ça implique aussi Ashir el-Kufr, le polythéisme et la mécréance. Lorsque l'auteur ici nous dit l'innovation est pire que les péchés majeurs, il parle des péchés majeurs à part le shirk et le kufr. Vous suivez ? À part le shirk et le kufr. Car l'innovation n'est pas pire que le polythéisme. L'innovation n'est pas pire que la mécréance. Mais de manière générale, on peut inclure le shirk dans les péchés majeurs et dire que c'est le pire, sans le moindre doute. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Et il pardonne à part ça, en dessous de cela, à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc, les péchés majeurs qui sont moindres au polythéisme, moindres au shirk, au kufr, celui qui les commet, mais qui ne s'en repent pas, il se verra le jour dernier sous la volonté et le choix d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Certains vont être punis par Allah, ils sont musulmans, ils ne sont pas des polythéistes, mais ils ont commis des péchés majeurs. Ils vont payer leurs péchés par la justice d'Allah, qui est un de ses attributs. Ils vont payer leurs péchés en enfer, dans une période de temps proportionnelle au péché et à la gravité du péché commis. Ils finiront inévitablement par leur tawhid, par sortir du feu pour entrer au paradis. Les autres, pour eux, Allah décidera par sa miséricorde, qui est aussi un de ses attributs, et tous ses attributs sont parfaits, de les faire entrer au paradis. Et il connaît la raison car il est sage, subhanahu wa ta'ala. Alors que le shirk, lui, celui qui meurt sans s'en repentir, il n'y a pas cette question-là sur lui. Mais il entre au feu, il n'en sort pas, qu'Allah nous en préserve. Pour cela, Allah a dit qu'il ne pardonne pas le shirk et qu'en dessous de ça, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, il choisit. Pour certains, il pardonne, il le fait entrer au paradis. Pour d'autres, il ne pardonne pas, il lui fait payer son péché, mais au final, il l'introduit au paradis. Celui qui commet un péché majeur, dans la croyance des gens de la Sunna, n'est pas un mécréant. On ne devient pas mécréant parce que la personne va consommer de l'alcool, va mentir, va consommer les intérêts, va voler, va faire toutes sortes de péchés majeurs comme la désobéissance aux parents et d'autres choses encore. On ne devient pas mécréant pour ces péchés, mais ces péchés font considérablement diminuer la foi de la personne au point de la rendre quelqu'un de pervers. Alors que les Khawarij et Al-Mu'tazila, deux sectes égarées dans la croyance, eux, disent que celui qui commet un péché majeur sort de l'islam. Ensuite, ils vont diverger. Ils s'accordent sur ce point et ils divergent sur la suite. Les Khawarij disent celui qui commet un péché majeur est mécréant. Les Mu'tazila disent il n'est ni mécréant ni musulman. Il est dans un état intermédiaire entre la foi et la mécréance. Lequel ? Demandez-leur. Parce que ça n'a rien à voir avec la sunna, cette croyance. Et de l'autre côté, il y a ceux que l'on appelle al-Jahmiyya et al-Murji'a qui eux disent que le péché n'a aucun impact sur la foi de la personne. Donc, nous avons des gens qui nous disent le péché n'a aucun effet sur ta foi est identique, tu es comme Jibril, alayhi salam. D'autres disent tu commets un péché majeur, tu n'es plus un musulman éternellement dans le feu. Les gens de la sunna disent tu commets un péché majeur, tu es un pervers à cause de ce péché. On craint pour toi le châtiment sans l'affirmer de manière sûre. Le repentir est possible pour toi et on espère que tu te repentes. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Si celui qui commet un péché majeur meurt en ayant commis ce péché majeur, on le lave, on prie sur lui et on demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder son pardon. C'est la croyance des gens de la Sunna. Ainsi, l'innovation est bien plus grave que les péchés majeurs. Celui qui commet un péché majeur sait qu'il désobéit. Et comme je l'ai dit tantôt, pour certains, ils espèrent se repentir. Ils disent, je sais que tu as raison. Le livre d'Allah Azza wa Jalla contient le vrai. J'espère me repentir. Mais celui qui innove, est-ce qu'il te dit, j'espère me repentir? Comment pourrait-il te dire, j'espère me repentir d'une chose dont il est convaincu de son caractère religieux? Pour lui, il se rapproche d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas te dire, je vais me repentir d'adorer Allah. C'est pour cela que c'est plus dangereux. Parce que celui qui est dans l'innovation est plus attaché que l'autre qui est dans le péché et pour lequel on peut espérer en repentir. L'auteur, rahimahullah, a cité comme premier verset de ce chapitre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Le verset que nous avons cité, dans le sens rapproché, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé. Et en deçà de ça, c'est-à-dire, à part ça, moindre à cela, il pardonne à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Ce verset a été cité par l'auteur pour prouver le chapitre. C'est-à-dire, l'innovation est plus grave que les péchés majeurs. Parce que, en réalité, le shirk, c'est une innovation. Le shirk, c'est une innovation. Si vous remontez à l'histoire de l'apparition du shirk, du polythéisme, dans l'histoire de l'humanité, vous allez voir que ce sont des innovations du peuple de Nuh, alayhi salam, lorsqu'ils ont mis à l'effigie des cinq personnages pieux qui sont morts de manière successive, des statues, et les ont mis dans les endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, dans le but, en les voyant, de se remémorer les efforts qu'ils fournissaient dans l'adoration et de faire la même chose. C'est une innovation. Et cela les a conduits au shirk, car les générations qui sont venues après, elles, ignoraient la cause de l'existence de ces statues. C'est là que Shaitan leur a fait croire que leurs ancêtres les adoraient et leur demandaient ce que l'on ne peut demander qu'à Allah. Ils se sont mis pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à solliciter un autre qu'Allah, dans ce que seul Allah peut donner. Subhanahu wa ta'ala. C'est une innovation, le polythéisme. Également, parce que les innovations se divisent. Il y a l'innovation que l'on appelle al-bid'atu shirkiya. L'innovation qui relève du shirk. L'innovation qui relève du polythéisme. Il y a al-bid'a al-fisqiya. L'innovation qui est un péché. L'innovation qui relève du polythéisme. Comme ceux qui font le tawaf autour des tombes. Ils innovent. Pourquoi ils innovent? Parce que le tawaf, la circumambulation, le fait de tourner autour, est une action qui ne peut se faire et qui ne doit se faire qu'autour de la Kaaba située à la Mecque. Dès lors qu'ils ont agi ainsi autour des tombes, ils ont innové. Et en même temps qu'ils innovent, ils ont vénéré ces morts. Et cette vénération ne doit être qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc là, on va parler d'une innovation qui fait partie du shirk. Ainsi, ce verset nous prouve que l'innovation est pire que les péchés majeurs parce que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne pardonne pas le shirk. Et parmi les formes de shirk, le shirk dans l'innovation. Il ne pardonne pas le shirk et à part ça, il pardonne à qui il veut, c'est-à-dire les péchés majeurs. Donc les péchés majeurs peuvent être pardonnés par Allah même sans repentir. Alors que le shirk, lui, n'est jamais pardonné s'il n'y a pas de repentir. Et parmi le shirk, l'innovation pour certaines formes. Donc, l'innovation est pire que les péchés majeurs. Vous avez compris? Le shirk Salih al-Fawzan Hafidahullah nous dit, il y a ce que l'on appelle al-bid'atu shirkiya. Elle fait sortir de l'islam. Comme le fait d'invoquer un autre qu'Allah. d'implorer le secours des morts, d'immoler près des tombes, ou pour les tombes, plutôt. Ces innovations relèvent du polythéisme. Elles ne sont pardonnées que si la personne se repent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a cité un deuxième verset. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Et quiconque est plus injuste que celui qui forge un mensonge sur Allah afin d'égarer les gens sans science. Quiconque est plus injuste que celui qui forge un mensonge sur Allah afin d'égarer les gens sans science. N'est-ce pas que celui qui innove dans la religion et qui dit « Cette action est aimée par Allah » a menti sur Allah, subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que quand il agit ainsi, puis qu'il appelle les gens à cette action qu'il a innovée, il égare les gens et il le fait sans science? Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait dit « Quiconque est plus injuste », c'est certes une forme interrogative, mais très souvent dans le Coran, la forme interrogative est utilisée par Allah en réalité pour blâmer. Elle va prendre le sens de la forme négative. Et quiconque est plus injuste, c'est-à-dire nul n'est plus injuste que celui qui forge un mensonge sur Allah, notamment quand il attribue à la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie, pour égarer les gens sans science. C'est le cas des prêcheurs à l'innovation. Quiconque est plus injuste, donc c'est la pire des injustices, bien sûr, après ash-shirk billah subhanahu wa ta'ala, après le polythéisme. Donc celui qui innove et dit cela fait partie de la religion, il y a une grande récompense donnée par Allah, il a menti sur Allah, contrairement à celui qui commet un péché. Lui, il ne dit pas cela fait partie de la religion, c'est bien de le faire. Il sait que c'est mauvais. Même quand il invite les gens à le suivre, il ne va pas leur dire c'est bien chez Allah. Il va leur dire c'est mauvais chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et là, on voit le danger de l'innovation. Et ces gens-là égarent les autres sans science, car les gens vont le suivre. Les gens vont les suivre, pardon. Ils les prennent comme des modèles, surtout quand il s'agit de gens qui sont cultivés un peu religieusement, ou alors qui ont un bon comportement, ou alors qui font apparaître en tout cas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fitna, un trouble, une grande tentation pour les gens. Car les gens disent, mais j'ai vu un tel dire, j'ai vu un tel faire. Mais peut-être qu'un tel s'est trompé tout simplement. Les gens se trompent donc par les gens qu'ils prennent pour guide, mais ils ne vont pas se tromper par être trompés par quelqu'un qui commet la fornication, consomme l'alcool ou fait des péchés majeurs. Tout le monde sait que c'est haram. Vous voyez la différence? En cela, on voit que l'innovation est pire que les péchés majeurs. Autrement, également, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Dans le sens du verset, afin qu'ils portent leur fardeau entier le jour de la résurrection, et les fardeaux de ceux qui les ont suivis sans science, quelle mauvaise chose qu'ils porteront. Dans ce verset, on apprend que celui qui instaure quelque chose et qui est suivi dans ce qu'il instaure, eh bien il va porter son péché pour avoir commis cette chose, et il va porter aussi le péché de chaque personne qui va le suivre sans rien diminuer du leur. Subhanallah. Et ça, c'est l'avenir du mubtadi', de l'innovateur, pardon. Il supporte son fardeau, son péché, et celui de ceux qui le suivent dans son innovation. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est un danger immense que représente l'innovation. Car combien d'innovations se sont propagées, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, au sein des gens Combien d'innovations ont été héritées de père en fils, de nation en nation, de siècle en siècle, à cause de la première personne qui a innové et qui a dit aux gens, faites-le, c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il en est de cette personne devant Allah, subhanahu wa ta'ala? Il aura donc une part de ce péché le jour dernier. Wal'iyadhu billah. Et subhanallah, lorsque l'on appelle quelqu'un au péché majeur, la personne qui va suivre va porter le péché. La personne qui l'a appelé va porter le sien et une partie du péché du suiveur. Alors que quand on parle d'innovation, l'innovateur porte son péché et le péché entier aussi de celui qui suit et pas une partie. La preuve, le hadith suivant, le prophète alayhi salatu wa salam dit ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. Pas une seule âme n'est tuée injustement sans que le premier fils d'Adam ne porte une part de son sang. Une part de son sang. Pourquoi? Parce qu'il est le premier qui a instauré le meurtre. Dans l'histoire de la jalousie entre les deux frères que vous devez certainement connaître, ou alors que je vous invite à connaître en vous renseignant. C'est le premier qui a commis le meurtre, l'assassinat. Et pour cela, chaque fois qu'il y a un meurtre, eh bien, il prend une part du sang, c'est-à-dire une part du péché. Et également dans le verset, Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Et celui qui intercède d'une mauvaise intercession emportera une part de son péché. Donc là on voit un péché et à chaque fois on voit une part qui va être portée par celui qui a convaincu les autres de le suivre, une part du péché. Par contre dans le verset là, لِيَحْمِلُ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ils porteront leur péché entier le jour de la résurrection. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite, وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْخَوَارِجِ أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wa salam a dit concernant les khawarij, justement, où est-ce que vous les verrez, tuez-les. Le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné à ses compagnons radiyallahu anhum s'ils venaient à rencontrer les khawarij de les éradiquer, de les combattre, de les tuer. Pourquoi? En raison de leur danger et de la gravité de leurs croyances erronées, malsaines, qui déforment la croyance authentique de l'islam. Donc, les khawarij, ils commettent une innovation. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit, où est-ce que vous les rencontrez? Tuez-les. Ça, c'est une preuve que l'innovation est pire que les péchés majeurs, parce qu'il n'a pas tenu ses propos pour ceux qui commettent les péchés majeurs. Où est-ce que vous les verrez? Tuez-les. Vous voyez la différence? Comme vous allez le voir dans le hadith justement qui va suivre, Inch'Allahu Ta'ala. Mais les Khawarij, de manière générale, sont ceux qui appellent à la rébellion contre les autorités musulmanes, à leur désobéir, à les attaquer à l'arme, à taxer les musulmans comme étant des péchés majeurs de mécréance. Et Allah sait qu'ils sont tellement nombreux, surtout dans cette époque qui est la nôtre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons de les éradiquer, de les effacer de la terre, car il dit ils déforment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils encouragent les gens au mal, à l'effusion du sang, à l'injustice, à causer des dégâts dans la communauté, dans la société, à diviser les gens et à faire tout ce que l'islam a interdit. Pour cette raison, le prophète alayhi salatu wasalam a mis en garde contre eux avec force. Le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahallah, nous dit la première apparition des actions de Khawarij est celle de l'homme appelé Dhul Khuwaysira. Cet homme-là est un homme qui a assisté à un partage que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre ses compagnons. Il s'est présenté à lui et a osé l'appeler par son nom, Ya Muhammad. Alors que les sahaba ne l'appellent jamais par son nom. Ils l'appellent par son statut au messager d'Allah. Il lui dit, I'dil fa innaka lam ta'dil. Sois juste, car là tu n'es pas juste. Le prophète alayhi salatu wassalam, son visage a rougi et lui a dit, Waylak, malheur à toi. Wa man ya'dil illam a'dil. Et qui d'autre que moi pour être juste si moi je ne le suis pas? L'homme s'en est allé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يَخْرُجُ مِنْ ضِقْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَحْتِرُونَ صَلَاتَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ يَحْتِرُونَ صَلَاتَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ وَعِبَادَتَكُمْ إِلَى عِبَادَتِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Il sera issu de ce personnage-là un peuple de gens dont les prières vous feront mépriser les vôtres, dont les adorations vous feront mépriser les vôtres. Vous les verrez, ils seront dévoués dans l'adoration. Ils fourniront des efforts sans pareil. Vous ne serez pas comme eux. Ils ont plus d'adoration que vous. Vous vous mépriserez devant eux. Et pourtant, il nous dit, ils sortiront de la religion comme la flèche sort du gibier après l'avoir transpercée, avec autant de rapidité. Les savants ont divergé sur cette sortie. Est-ce que ce qui est voulu, c'est la mécréance? Ils sortent de l'islam complètement. Donc, ils sortent de l'islam pour la mécréance, ou alors, ils sortent pour la perversion. Il ne sort pas de l'islam dans sa totalité. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, apporte le consensus des compagnons pour dire qu'il s'agit de la sortie vers la perversion, pas vers la mécréance. Wallahu a'lam. Il dit aussi, où est-ce que vous les rencontrerez? Tuez-les. Il dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, de les combattre. Et leur mal est connu à notre époque. Regardez le mal qu'ils font. Et c'est à cause de ces mêmes khawarij que les gens qui s'affilient à la sunna et qui pourtant n'ont rien à voir avec eux sont apparentés aux khawarij, alors qu'ils sont peut-être les pires des ennemis chez les khawarij, les salafiyoun, les gens de la sunna. Donc aussi le prophète alayhi salatu wasalam dit wa fi riwaya la in adraktuhum la aqtulannahum qatla ad. Si je les rencontrais, je les tuerais comme fut éradiqué le peuple de Ad. Ad, c'est le peuple du prophète Hud alayhi salam. Il a été éradiqué par Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a envoyé un vent violent et puissant. Et ces gens-là étaient corpulents et ils étaient très grands. Ils étaient très grands, ils faisaient des constructions dans les montagnes, ils avaient des corps très grands. Quand je dis très grand, je ne dis pas 1m80 ou 2m. Ils avaient des corps très grands. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un vent puissant qui les a envoyés en l'air, dans le ciel, puis ils sont retombés sur la tête au sol et ils ressemblaient à des troncs de palmiers déracinés. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, si je les rencontre, je les éradique comme fut éradiqué le peuple de Ad. Donc pour vous montrer la gravité de ces gens-là, ce qu'il n'a pas dit pour des gens commettant des péchés dans sa communauté, des péchés majeurs. Voilà ce qu'il en est de Khawarij. Il les a aussi décrits comme étant des gens qui concentrent leurs injustices, leurs meurtres sur les gens de l'islam et délaissent les gens de l'idolâtrie ou du polythéisme. Et les plus grandes victimes des Khawarij dans le monde sont les pays musulmans. Qu'Allah les préserve de leur mal. L'auteur, rahimahullah, dit وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَا عَنْ قَتْلِ أُمَرَاءِ الْجَوْرِ مَا صَلَّوُ. également. Le Bukhari rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a interdit de tuer les dirigeants injustes tant qu'ils accomplissent la prière. Donc quand il parle des khawarij qui innovent dans la religion, il dit de les combattre. Et quand il parle des dirigeants qui sont injustes, et l'injustice est un péché majeur, il dit qu'il ne faut pas les combattre et qu'il ne faut pas les tuer, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un fondement des gens de la sunna, l'interdiction des rébellions. Les rébellions que vous voyez aujourd'hui sont une désobéissance claire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela doit être enraciné en vous. Même si les ambiguïtés sont de plus en plus nombreuses, où les gens font des tentatives sans pareil pour prouver la légitimité de ces actions qui sont pourtant des innovations gravissimes chez Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous laissez pas piéger par ces gens-là. Écoutez ce que disent les savants. Depuis les salafs jusqu'à notre époque, depuis les sahaba radiallahu anhum, jusqu'à notre époque, si vous entendiez les paroles des salafs sur ces choses-là, vous n'en reviendrez pas. Donc, renseignez-vous, inshallah, notamment, par exemple, dans le livre Usul Sunna, les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed. Allah nous a facilité d'enseigner. Revenez au chapitre sur les khawarij, sur l'interdiction de se rebeller contre les détenteurs de l'autorité. Vous comprendrez pourquoi est-ce que les gens de la Sunna insistent et persistent pour interdire ces actions. Ils ne le font que pour se rapprocher d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun autre intérêt derrière cela. Wallahu muwaffiq. Ainsi le prophète alayhi salatu wa salam a interdit cela. Et la base de ce hadith, dont une partie a été citée quand il dit qu'il a interdit de tuer les gouverneurs injustes quand il prie, il dit dans le hadith: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. Les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. Vous invoquez pour eux, ils invoquent pour vous. وشرار أئمتكم. Et les pires de vos dirigeants, الذين تبغضونهم ويبغضونكم, sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. وتلعنونهم ويلعنونكم, que vous maudissez et qui vous maudissent. Il fut dit: Ya Rasulallah, alanunabiduhum, au messager d'Allah, devons-nous les combattre? Qu'est-ce qu'il répond? La, non, ma aqamu fikum as-salat, tant qu'ils accomplissent la prière. Subhanallah. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite: Wa an Jarir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, ana rajulan tasaddaqa bi sadaqah. ثم تتابع الناس فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. L'imam muslim rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: après qu'un homme a donné une sadaqa, il a donné une aumône, puis les gens l'ont pris pour modèle. L'histoire de ce hadith, c'est que des gens de la tribu de Mudar, une des tribus arabes d'autrefois, sont venus et le prophète alayhi salat wa salam les a vus. Il a vu le degré de besoin de ces gens-là, de par leur tenue vestimentaire notamment. Il a vu très clairement que ces gens-là souffraient d'un grand besoin. Le prophète alayhi salat wa salam a été peiné par la situation à un point tel que son visage a changé de couleur. Et il leur a dit: Jama'atum lahum al-mal. Vous leur avez d'ores et déjà réuni les biens ou l'argent. Et là, un compagnon est venu. Ce compagnon a apporté une bourse rempli d'or. Puis il l'a donné au prophète, alayhi salat wa salam. Lorsque les compagnons l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi. Chacun a donné ce qu'il pouvait. Un peu, l'autre a donné un peu plus, un autre a donné un peu moins. Et à la fin, ils sont repartis avec beaucoup. Et là, le prophète, alayhi salat wa salam, a dit, quiconque instaure dans l'islam une bonne sunna en aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui le suivront après lui. Et qui, sans pour autant que cela ne diminue en rien de la leur. Et quiconque instaure dans l'islam une mauvaise guidée aura son péché et le péché de tous ceux qui le suivront sans diminuer en rien le leur. Donc on voit que la personne qui a été la première à donner, quand elle a été suivie, tous ceux qui l'ont suivie, pour tous ceux qui vont la suivre, cette personne va être aussi récompensée. Pareil, quand il s'agit d'un mal, la personne qui fait une innovation, lorsqu'elle va agir et qu'elle va être suivie, elle va porter son péché et le péché des autres, sans diminuer le péché des autres. Vous imaginez un peu la gravité de l'innovation. Et ici, le terme utilisé, c'est « sunnah ». Et ce qui est voulu par le mot « sunnah » ici, parce qu'on dit « sunnah hasana »,« sunnah sayyi'a », une bonne sunnah, une mauvaise sunnah. Ce n'est pas le sunnah dans le sens linguistique, dans le sens religieux. Dans le sens religieux, il n'y a pas de mauvaise sunnah. C'est la sunnah dans le sens linguistique, une voie, une façon d'agir. Celui qui instaure une bonne façon d'agir, c'est-à-dire qui fait revivre une bonne façon d'agir faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de cette explication, c'est la sadaqa. L'homme a donné en réponse à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a donc pas fait quelque chose de nouveau. Ce hadith ne peut donc pas être une preuve pour l'innovation. Parce que cet homme-là a donné, suite à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné. Et après cette action-là, le prophète a.s. a dit quiconque instaure une bonne voie, donc quiconque fait revivre une sunna, quiconque répond à l'appel du prophète a.s. Et dans l'autre, quiconque instaure une mauvaise voie, c'est-à-dire celui qui fait vivre une bid'a, comme le dit le cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, et c'est une mise en garde contre l'innovation, puisque la personne qui innove et qui est suivie porte son péché, le péché des suiveurs. L'auteur rahimahullah conclut ce chapitre en disant وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةِ وَلَقْضُهُ مَنْ دَعَى إِلَى هُدَى ثُمَّ قَالْ مَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَةِ. Le hadith rapporté par Muslim, le prophète عليه الصلاة والسلام dit مَنْ دَعَى إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. Quiconque appelle à une guidée. Et vous voyez ce hadith, il explique l'autre. La bonne sunna ou la mauvaise sunna. C'est le sens linguistique. Et ce qui est voulu de la bonne sunna, c'est la guidée. Car ici, il nous dit, quiconque appelle à une guidée aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui le suivront sans diminuer la leur. Et quiconque appelle à un égarement, ça explique la mauvaise sunna, la mauvaise voie. Quiconque appelle un égarement, كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. Quiconque appelle un égarement aura le même péché que tous ceux qui le suivront sans leur diminuer leur péché. Il y a ici le mérite de l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'appeler au bien, d'interdire le mal. Et que la récompense de celui qui agit ainsi est énorme. Il reçoit sa récompense et celle de ceux qui le suivront. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui a une meilleure parole que celui qui appelle à Allah, fait de bonnes actions et dit je suis du nombre des musulmans. L'appel à Allah tabaraka wa ta'ala est quelque chose d'immense, mais cela doit se faire en conformité avec la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Quant à celui qui appelle à l'égarement, celui qui appelle à l'innovation, celui qui appelle à vénérer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, adorer autre qu'Allah, il portera son péché et le péché de ses suiveurs. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.